moment d'ouvrir ta parole, de puiser notre nourriture spirituelle dans ta parole, eh bien c'est encore une affaire de lumière. Nous avons besoin de lumière. Qui peut lire dans l'obscurité ce qui est les blessures sur le plan spirituel? Qui peut comprendre ta parole, ou du moins la recevoir telle que tu as voulu qu'elle soit reçue par nous, dans l'obscurité du monde, parfois dans l'obscurité de nos cœurs? Alors Seigneur, viens faire taire en nous les bruits du monde, les ressentiments, les agitations, et puis le bruit de nos propres pensées, pour que le silence tout entier soit au bénéfice de ta parole que nous recevons maintenant. Amen.
Amen.
J'ai retenu deux textes dans les lectures du jour. La première se trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors, en fait, je vous dis une bêtise, ce n'était pas la lecture du jour. La lecture du jour, c'était la parabole des talents. Et puis, en laissant vagabonder un peu mon regard, j'ai vu que la parabole juste avant, celle des dix vierges, était plus appropriée à ce que au message d'aujourd'hui. Donc, alors, Matthieu 25, chapitre verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et nous lisons maintenant dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 5, premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sécurité ». C'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors manifestement, ces deux lectures nous conduisent vers un sujet qu'on a déjà eu l'occasion de partager très souvent, d'étudier, soit pendant les prédications, pendant les études bibliques ou chez soi, etc. Ce sujet, c'est, comment on va l'appeler, le jugement dernier, la fin du monde. Mais j'aime pas bien ces appellations parce qu'elles résonnent, vous savez, avec ce côté apocalyptique, catastrophe, apocalyptique, d'ailleurs, ce mot qui est très mal utilisé puisqu'il n'a jamais voulu dire catastrophe. Moi, je préfère dire le retour de Christ. N'est-ce pas? Il y a une note positive parce que tout chrétien sincère et normalement constitué attend ce grand jour avec impatience. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Donc voilà, le retour de Christ. Enfin bon, au cours de ma prédication, je dirais peut-être le jugement dernier ou la fin du monde, mais voilà. Alors c'est un sujet, vous avez remarqué, à chaque fois qu'on l'aborde, il y a Il y a un sujet difficile. C'est difficile. Ça tient à une raison bien simple, c'est que nous avons vis-à-vis de cette fin du monde, de ce retour de Christ, nous avons des questions tout à fait naturelles. Où, quand, comment ? On voudrait bien savoir. De toute façon, ça c'est une tendance naturelle de l'être humain, de vouloir savoir l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Regardez, les voyantes extra-lucides font fortune. Pourquoi ? Parce que les gens consultent. Ils n'y croient pas trop, mais sait-on jamais ? Voilà. Alors, oui, des questions tout à fait naturelles, et honnêtement, par rapport à toutes ces questions, la parole de Dieu ne nous donne pas vraiment beaucoup de précisions, vraiment claires. Mais il y a cela une raison. Vous allez voir pourquoi. Alors c'est aussi un sujet frustrant. Donc les questions, je vous disais, où, quand, comment, c'est surtout la question quand. C'est la plus importante. Quand est-ce que Jésus reviendra ? Quand reviendra-t-il marcher sur nos chemins ? Changer nos cœurs de pierre, c'est un cantique. Quand viendra-t-il ? C'est la question la plus importante pour nous. Alors Jésus répond, là il est clair, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà, c'est réglé. Même lui, même moi, Jésus, je ne connais pas ni le jour ni l'heure. Seul le Père connaît ce moment précis. Alors il nous donne quand même des indices, c'est ça que j'aime bien avec Jésus. Il nous dit, on ne sait pas. Mais, vous savez, dit-il à ses disciples, dans un passage de l'Évangile, vous savez que l'été est arrivé lorsque vous observez le figuier qui bourgeonne. Intéressant, ça. Ça veut dire, exercez le discernement que Dieu vous donne. Sous-entendu, quand le moment arrivera, vous le verrez, vous, chrétiens, vous, enfin, qui croyez en moi, bien sûr. Alors voilà, donc, difficulté. Pourquoi le Seigneur n'est-il pas clair ? Alors moi, je vois une raison très, dans le fond, très simple. C'est que nous ne posons pas les bonnes questions. On a un exemple dans la Bible, dans l'Évangile. Lorsque un pharisien, je ne sais plus exactement, j'aurais dû chercher le texte, mais il me vient un peu maintenant, un pharisien vient un peu pour mettre Jésus à l'épreuve, et il lui dit, bon, dans le royaume des cieux, alors le royaume des cieux, c'est ce qui suit le jugement dernier, n'est-ce pas, le retour de Christ, le royaume des cieux, alors on se pose des questions aussi sur ce royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, imaginons un homme qui, sur terre, aurait eu sept femmes. Une femme qui aurait eu sept maris. Ça revient même. Hein. Une femme qui aurait eu sept maris. Ils sont morts successivement les uns après les autres. Bon, déjà, je me serais méfié d'une femme comme ça, moi, personnellement. La question, dans le royaume des cieux, de quel homme sera-t-elle la femme ? Après tout, c'est pas si idiot comme question. Elle a été mariée cette fois, dans le royaume des cieux, duquel sera-t-elle l'épouse ? Et Jésus répond, dans le royaume des cieux, il n'y aura ni mari ni femme. Mais bon, ce qui répond derrière cette réponse, c'est vous n'y êtes pas du tout. Vous essayez d'imaginer le royaume des cieux par rapport à ce que vous vivez là sur terre. Alors bien sûr, en mieux, en parfait, en tout ce que vous voulez. Mais de nouveaux cieux, une nouvelle terre, quelque chose de complètement différent, aurons-nous seulement un corps et ça ? Jésus dit, vous n'en savez rien, vous n'y êtes pas. Et donc les questions que vous vous posez, elles révèlent que vous partez d'un ancrage, c'est-à-dire d'un vécu, ce que vous connaissez sur terre, et vous le projetez avec une idéalisation. Mais laissez tomber. Laissez tomber, vous ne pouvez pas. Alors, même chose pour comment ça va se passer, le retour de Christ, quand, que va-t-il y avoir comme si. On essaye d'imaginer, mais partant de ce qu'on connaît, on ne peut pas faire autrement. Et Jésus nous dit, vous n'y êtes pas. Donc ne cherchez pas, n'explorez pas, ce sont des mauvaises pistes. Alors par contre, il y a certainement, dans les quelques éléments que le Seigneur nous donne dans l'Évangile sur ce retour de Christ, il y a certainement un message qui là est plus qu'intéressant et qu'il faut absolument prendre en compte. Quel est-il ? On a lu ce petit extrait de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et vous voyez, pour résumer, qu'est-ce qu'il dit notamment au verset 4, « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière, etc. » Et donc, conclusion, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Veillons. C'est l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens. « Ne dormons pas, soyons vigilants, veillons. » Si vous connaissez bien notre Bible, ce dont je ne doute pas, vous savez que ces mots sont repris pratiquement mot pour mot des paroles de Jésus. C'est des paroles qu'on trouve également dans l'évangile de Matthieu. C'est la page juste avant la parabole des dix vierges qu'on a lue. Donc chapitre 24, verset 42, voilà ce que dit Jésus à ses disciples, donc quelque temps avant Paul, quelques années avant Paul. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Intéressant, il y a cette dans les paroles de Paul comme dans les paroles de Jésus, cette notion du voleur. C'est-à-dire que le voleur, il ne s'annonce pas. Il n'envoie pas un petit carton, je vais venir tel jour à telle heure. Évidemment. Donc, Paul a repris la même chose et surtout, il a repris la même conclusion. Veillez. Alors, on va explorer ce terme, ce verbe, veiller. Bon, nous savons ce qu'il veut dire. D'ailleurs, c'est explicite ici. Ne dormez pas. Veiller, c'est ne pas dormir. Alors, je vous rassure tout de suite, il s'agit bien sûr d'une veille spirituelle. On est d'accord, ce soir, après votre émission de télévision préférée, vous irez vous coucher et je vous souhaite par avance de passer une bonne nuit, un bon sommeil. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il ne s'agit pas, bien sûr, de rester les yeux ouverts. De toute façon, on ne tiendrait pas longtemps. Alors, s'il s'agit d'une veille spirituelle, sommes-nous capables de rester constamment éveillé spirituellement parlant? Rien de moins sûr. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais que vous raffolez des anecdotes. Lors d'un de nos voyages en Roumanie, c'était le deuxième voyage en 2001, nous avons re-rencontré le responsable d'une fondation, sous la houlette de l'Église orthodoxe, qui s'occupait admirablement des jeunes en perdition, des enfants, des filles mères, etc., etc. Et le responsable s'appelle Dorine Paraskin. Cet homme, qui était d'un dévouement extraordinaire, on peut dire, chaque fois que je l'ai vu, il était avec plein de projets, une activité débordante. Et donc le deuxième voyage, quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait l'air fatigué. Logique. Et je lui ai dit, Dorine, il faudrait penser de temps en temps à vous reposer, prendre quelques jours de congé, ne serait-ce que pour être plus efficace par la suite. Reposez-vous. Il m'a regardé, il m'a dit, surtout pas. Parce que si à ce moment-là, pendant ce temps, le Jésus revient, il faut qu'il me trouve au travail. Vous voyez un peu Alors, inutile de vous dire que je n'approuve pas cette vue des choses, cette théologie-là, parce que ça ressemble bien à une sorte de théologie du devoir, vous voyez, qui d'ailleurs fricote un peu avec le mérite, un esprit, une idée de mérite. Bien sûr que, d'ailleurs Jésus a dit, venez à moi, je vous donnerai le repos, c'est pas pour vous esclavagiser, ou plutôt, je crois que cet homme, il s'esclavagisait tout seul. C'est-à-dire sa conception de Dieu, c'est que nous sommes ses esclaves. Jésus nous a traités d'amis, d'enfants, de toutes sortes de choses, mais jamais d'esclaves. On parle parfois d'être esclave du Seigneur, mais dans un sens au deuxième degré. Voilà. Donc, très certainement, il n'est pas possible de veiller spirituellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et d'ailleurs, cette parabole, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu, cette parabole des dix vierges, vous souvenez ce qui se passe, hein, nous avons 10 jeunes filles, là, qui... alors il y en a 5 faux folles, pas folles au sens hein, psychiatrique, c'est faux folles, un peu insouciantes, oui, insouciantes, hein, voilà. Et puis 5 beaucoup plus raisonnées, beaucoup plus sages. Bon, elles sont censées veiller, puisqu'elles attendent de l'époux dans la nuit, on ne sait pas quelle heure il va venir. Et d'ailleurs, il est dit que l'époux tardait à venir. Et qu'est-ce qui se passe ? Verset 5, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes, pas seulement les 5 folles, mais également les 5 sages. Bah, c'est ce qui se passe. Regardez un autre exemple, les disciples à Gethsémané. C'est une heure cruciale, c'est peut-être l'heure la plus cruciale, c'est le cas de dire, vous savez, du mot croix. C'est l'heure la plus absolue pour l'humanité, c'est le moment où Jésus va être arrêté pour être ensuite crucifié et accomplir le plus grand miracle qui puisse qui ait existé sur terre et dans les cieux. Ils s'endorment. Ils sont censés veiller. Jésus dit, priez là, restez là, veillez dans la prière, je me mets un peu à l'écart. Ils s'endorment. Alors, c'est bien signe que... Alors là, on est dans un problème spirituel phénoménal. C'est bien signe que même ça, ça ne nous est pas possible. Veiller spirituellement, dire celui qui dit, moi je veille, bien sûr, je veille spirituellement, tout le temps, je demande à voir. Il y a des moments où on s'assoupit et on s'endort dans nos vies chrétiennes. Alors, si veiller ne veut pas dire vraiment veiller, qu'est-ce qu'il veut dire dans l'esprit de la Bible ? Alors là, on a quand même également un indice formel dans cette parabole des 10 vierges. C'est que pourquoi les sages, finalement, elles vont quand même rentrer dans la salle des noces ? Tout se passe bien pour elles. Est-ce qu'elles ont... elles se sont pas laissées surprendre ? Non, elles se sont laissées surprendre. Le grand cri, il arrive ! Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Panique. Mais, la grosse différence, c'est qu'elles avaient été prévoyantes. Et autrement dit, leur lampe était éteinte, mais elles avaient de l'huile, elles ont pu les rallumer juste à temps pour accompagner les troupes. Alors que les folles, évidemment, elles donnent de l'huile à nous, mais on va aller en chercher trop tard. Le problème des 5 folles, c'est qu'elles se sont laissées surprendre. Alors je crois qu'il faut prendre ce terme veiller dans ce sens, c'est-à-dire avoir tout préparé pour que le jour qui viendra, qui nous surprendra, eh bien on soit prêt, on puisse faire face, on puisse se tenir devant celui qui sera notre juge, le Seigneur. Sans problème. Avoir prévu de l'huile pour nos lampes. Vous voyez tout ce qu'on peut mettre derrière cette image. Alors vous allez me dire, de toute façon, alors déjà, une première chose, c'est que par rapport au retour de Christ, qui viendra à un moment donné précis, finalement, qui sont concernés ? C'est la dernière génération qui sera en vie au moment où il arrivera. Alors c'est peut-être nous. En fait, peut-être on sera tous morts, alors, si ça se passe dans un siècle ou deux, on ne sait pas. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un sujet, intéressant, mais enfin... Ouais, oui, il ne concerne qu'une catégorie, c'est de gens, ceux qui seront en vie au moment où Jésus revient. Eh ben non. Je m'inscris en faux contre cette idée. Parce que je me dis que dans le fond, c'est vrai que nous pouvons être... encore en vie tous nous qui sommes ici, au moment s'ils viennent en 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, mais on peut être là. Ça peut arriver demain, ou cet après-midi, nul ne connaît ni le jour de l'année ni l'heure. Mais également je me dis, mais pour tous les chrétiens des siècles passés, ils ont connu ce jour du retour de Christ, parce que qu'est-ce qui se passe entre leur mort, entre la mort d'un chrétien, et le moment où il est ressuscité pour être... au moment du retour de Christ. Il ne se passe rien. Rien. Donc, de son point de vue, quel temps s'écoule entre sa mort et le retour de Christ, même donc un chrétien qui est mort au 3e siècle après Jésus-Christ ? Une fraction de seconde. Il est mort, il se réveille de la mort, et le voilà face à Christ. Donc, quelque part, Nous avons tous cette échéance, que ce soit le véritable retour de Christ ou que ce soit notre mort, qui correspond à un retour de Christ. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc tout ça pour dire simplement, prenons très au sérieux ce message du Seigneur par rapport à cette fin du monde. Nous sommes concernés, même si on se dit, certainement il viendra beaucoup plus tard, bien après la mort. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors il s'agit d'être prêt. Là, il nous faudrait une deuxième prédication pour vous dire en quoi consiste cette préparation. Une préparation qui nous permettra, si demain le Seigneur arrive, de ne pas être pris au dépourvu. En deux mots, très 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 condensé, il s'agit de sonder la parole de Dieu, il s'agit d'étudier cette parole, de la faire vivante en nous. Bref, c'est la conversion. Mais vous voyez, la conversion, il y en a certains qui se sont convertis un beau jour brutalement, d'un seul coup ils ont reçu une parole qui les a illuminés et voilà, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais à partir de là, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'ils commencent tout un travail d'étudier, de comprendre le message de Dieu, d'assimiler tout le message de l'Évangile. C'est tout un travail. Voilà ce travail qui consiste à faire provision d'huile pour nos lampes lorsque Jésus paraîtra pour pouvoir rallumer nos lampes, ne pas être prise au dépourvu. Alors on pourrait citer des exemples, vous voyez par exemple les étudiants, il y en a qui, la veille de l'examen, ils bachotent, n'est-ce pas, l'éducation nationale, les étudiants qui ont fait la fête, c'est fini, l'année scolaire est terminée, chouette, on va jouer avec les amis, on va se promener à la plage, et très bien. Et puis, la veille de l'examen, vite, mes notes, trop tard. C'est pas les quelques coups d'œil comme ça, rapides, sur une copie, sur un cours, sur des notes, qui permettent d'affronter, d'aborder un examen. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Un sportif, c'est pas la veille de sa compétition aux Jeux Olympiques, qui va s'entraîner. C'est des mois, des années d'entraînement. Alors voilà, je referme, mais je suis désolé, on pourrait en parler longtemps, mais nous avons nous aussi cette préparation. Alors vous allez me dire, oui, mais le brigand sur la croix, lui, 5 minutes avant de mourir, il n'a pas eu le temps de préparer grand-chose. C'est là toute la grâce du Seigneur. Toute la grâce du Seigneur. Mais pourquoi jouer avec le feu? Quelle sera mon attitude? Est-ce que je serai parmi les folles ou parmi les sages de la parabole si Jésus se présente demain, l'année prochaine? Est-ce que je serai prêt? C'est, chacun doit répondre dans son cœur. Alors, à partir de là, je me suis dit que tout ce qu'on vient de voir là, c'est peut-être d'ailleurs très très utile pour, pas seulement pour affronter, si je ne sais pas le terme qu'on peut utiliser, mais pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, mais tout simplement pour notre vie de tous les jours. Le principe d'être prêt. Un ennui dans la vie, une tuile, comme on dit. C'est une tuile. Quand on dit « il m'arrive une tuile », c'est comme, ça prévient pas, une tuile qui tombe d'un toit sur la tête, ça fait mal, mais la tuile, elle s'avance pas, j'arrive! Voilà. Une tuile, un gros coup dur. Je vais chez mon médecin, il prescrit des examens, je sors des examens, il me dit, monsieur, vous avez le cancer. Je prends cet exemple, mais il faut en prendre 10 000, mais le truc qui tombe d'un coup là. Ah, mais c'est aussi abrupt que sera abrupt le retour de Christ. Alors si, dans les cas des coups durs comme ça, des grosses tuiles, réflexe, on se tourne vers le Seigneur, Seigneur, à l'aide. Oui, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais quelques jours avant, le Seigneur, il était où là? En vacances? Il était loin de nos cœurs? Ah, par contre, si on a pris soin de nous préparer, des mois, des années à l'avance, à nous préparer à être en communion tous les jours, je veux dire, communion avec le Seigneur, à sonder sa parole. Ben, le jour où là-dessus elle arrive, elle est là, c'est clair, on la prend sur la tête. Mais quelle différence ! Quelle différence ! Alors, il y a les coups durs, mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Les décisions. Des décisions importantes dans la vie. Vous savez, on s'est tous, je crois, trouvés à un certain moment devant des décisions à prendre, blanc ou noir, positif, négatif, des décisions à prendre qui, on a l'intuition, vont changer notre vie ou pas. Des décisions qui vont, oui, conditionner beaucoup de choses. Alors aussi, on se tourne vers le Seigneur. Seigneur, viens à mon aide, aide-moi dans le choix de telle et telle chose. Mais si c'est le travail qui a été fait très longtemps avant, comme l'étudiant qui a toute l'année à potasser ses cours et réviser, etc., et qui aborde l'examen avec beaucoup plus de sérénité, et surtout beaucoup plus d'efficacité, eh bien, même chose pour nous. Même chose pour nous. Combien de chrétiens se raccrochent alors ? Vous savez, mon papa son dernier poste en tant que pasteur, c'était d'être aumônier des hôpitaux. Il ne faisait que ça, ça anime, il y a beaucoup d'hôpitaux, mais surtout beaucoup de protestants, donc ça méritait un poste à plein temps. Il aimait bien ça. Mais il disait souvent, c'était son témoignage, il disait, mais là on apporte la parole, on est écouté hein, dans les hôpitaux. Des gens qui sont dans des sacrées postures, qui sont dans des situations de santé parfois catastrophiques, qui voient le bout, hein, on leur a dit, hein, soins palliatifs, etc. Et alors là, qu'est-ce qu'ils sont réceptifs ? On arrive avec la parole de Dieu, ah, ils boivent. Vous voyez, c'est un peu ce réflexe, je me raccroche. Mais certainement, je crois qu'il aurait pu également témoigner de lorsqu'il rencontrait un chrétien de longue date, vraiment très profondément engagé dans sa foi. Il devait avoir une certaine différence d'attitude, de comportement et de réaction vis-à-vis du gros problème de santé, ou même vis-à-vis de la mort. Alors, l'exhortation, elle est là, de veiller, c'est-à-dire ne vous laissez pas endormir, nous laissons endormir de temps en temps, même spirituellement, c'est clair, c'est clair. Il y a des moments, vous savez, les hauts et les bas, hein, si on n'est jamais tout régulier, c'est... Voilà, il y a des moments où on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur, et d'autres moments où on s'endort un petit peu, mais la différence se fait dans la préparation. Si j'ai un passé avec le Seigneur, le cheminement avec le Seigneur, quelle différence ! Quelle différence !